Et ce matin, tout comme hier, on va faire un point sécuritaire sur les derniers événements dans le nord d'Israël avec l'autre ancien officier du renseignement militaire qu'on adore recevoir sur cette antenne. Hier, c'était Jacques Neria et aujourd'hui, c'est Raphaël Jérusalmi avec lequel je vous laisse faire ce point sécuritaire, ma chère Lise.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Raphaël, tous les yeux sont tournés vers le nord d'Israël. Encore hier soir, la mort d'un nouveau soldat tombé au combat, médecin, 30 ans. Là encore, beaucoup d'activités pour savoir si oui ou non il va y avoir un nouveau cessez-le-feu avec le reste. Voilà, et l'Iran qui essaye de lier absolument les deux fronts. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël ?
Eh bien, ça va dépendre en fait d'une décision du Premier ministre israélien, une décision politique, car l'armée est prête à mener une offensive plus intense, à frapper même au sein de Beyrouth si nécessaire, mais la Maison-Blanche fait pression. Donc pour un cessez-le-feu qui est d'autant plus ridicule qu'il n'y a pas de lien stratégique, tactique entre ce qui se passe au Liban et ce qui se passe entre l'Iran et les Américains. Ce sont deux problèmes différents. Le seul lien, c'est évidemment le soutien des Iraniens au Hezbollah. Mais ceci étant dit, ça s'arrête là. D'autant plus qu'Israël n'est pas partie prenante des négociations entre les Américains et les Iraniens. Et donc, si elle est sur la touche, il n'y a aucune raison pour qu'on lui impose une condition ou une autre alors qu'elle n'était pas dans les négociations. Il y a un problème aussi technique ou technologique, c'est la fameuse menace des drones. Et cette menace, maintenant, devient inacceptable, devient extrêmement létale pour nos troupes et même à plus long terme pour les civils israéliens. Et donc là, on n'aura pas le choix politique ou pas, que de nous défendre et de passer à l'action si nécessaire. Et surtout, les usines, les industries militaires israéliennes travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution qui serait en fait un drone, intercepteur de drone. C'est la solution sur laquelle ils travaillent en ce moment, mais même s'ils la trouvent rapidement, il y aura tout le processus de production qui prendra évidemment du temps.
Alors justement là-dessus, il y avait une commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset qui s'est réunie et malheureusement le représentant de Tzal qui était là a vraiment reconnu la complexité de la lutte contre cette menace des drones et il a expliqué que pour l'instant il se concentrait sur plutôt toucher les opérateurs de drones plutôt que d'arriver à intercepter chaque drone et c'est une approche qui a vraiment suscité de vives critiques chez les députés. Vous en dites quoi, Raphaël, personnellement?
Quand on voit le quotient d'intelligence moyen de nos députés, malheureusement, on ne peut pas s'en étonner. L'armée sait ce qu'elle fait, et c'est un petit peu, si vous comparez cette menace des drones à la menace nucléaire ou balistique des Iraniens, effectivement, c'est la même chose. Au lieu de détruire les missiles balistiques, on va détruire les industries qui produisent ces missiles, on va éliminer les commandants de l'artillerie iranienne, et c'est la même chose pour le Hezbollah. Si on n'arrive pas à trouver à temps une solution, il y a quand même quelques solutions alternatives pour l'instant contre ces drones, mais sur le terrain. Mais sinon, la formule idéale et la plus rapide, c'est effectivement de s'en prendre à la source, aux opérateurs de drones, aux endroits où les drones sont entreposés, et de détruire donc l'infrastructure qui est derrière le drone lui-même.
Alors, Raphaël, évidemment, tout le monde discute ce matin de cette fameuse conversation qui est censée avoir eu lieu par téléphone entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump et le fait que Israël était prêt pour une frappe sur Beyrouth et que les Américains l'ont arrêté. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, il faut pas oublier que malgré tout ce qu'on peut penser, l'offensive de Tzal au sud du Liban est une offensive extrêmement coordonnée. Elle est même parfois coordonnée avec l'armée libanaise elle-même pour éviter évidemment qu'on se tire les uns sur les autres, et les coordonnées avec les Américains, et les mêmes coordonnées avec la FINUL, les casques bleus de l'ONU, pour là aussi éviter des incidents. Et donc, cette frappe, si elle n'a pas été autorisée, c'est évidemment une décision politique qui est lamentable, parce qu'en fait, ça veut dire que Donald Trump cède à la pression iranienne. Ce sont les Iraniens qui ont exigé de Donald Trump de faire le lien avec ce qui se passe au sud du Liban et les négociations concernant un cessez-le-feu irano-américain. Trump a cédé à cela et il a donc intimé à Benjamin Netanyahu de ne pas tirer sur la Dakhia et sur Beyrouth. Je pense que si les Israéliens étaient venus avec un moment doré, par exemple, pour éliminer Naïm Qassem, aurait-il véritablement attendu l'autorisation de la Maison Blanche ou aurait-il reçu le feu vert de la Maison Blanche pour éliminer le chef du Hezbollah? Aujourd'hui, politiquement, Donald Trump est évidemment devenu un protecteur du Hezbollah. C'est assez aberrant, mais c'est de la politique.
Alors justement, on voit bien en fait que cet échange qui était où clairement les intérêts des uns n'étaient pas alignés sur ceux des autres. Danny Dannon, qui est l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, lui par contre a absolument tenu à rappeler que sans paix dans le Nord-Est, il n'y aura pas de paix pour le Hezbollah et que malgré tout ce que dira Donald Trump, si ça continue comme ça, il faudra aller frapper Beyrouth, c'est ce que vous pensez, Raphaël ?
Oui, absolument. Ça va continuer comme ça, parce que ce que Donald Trump a oublié, c'est que même si Benjamin Netanyahu lui obéit au doigt et à l'œil, ça ne sera certainement pas le cas de Hezbollah. Et Hezbollah continuera à tirer sur Israël, sur Tsahal, donc ce cessez-le-feu n'en sera pas un, mais de toute façon, le cessez-le-feu, dans le langage de Donald Trump, c'est un mot vide de sens, puisque dans tous les cessez-le-feu qu'il a intimés, que ce soit à Gaza, au sud du Liban, ou même en Iran même, tout le monde se tire dessus les uns sur les autres allègrement, à commencer par les Américains eux-mêmes, qui ont déjà attaqué par 3 fois les gardiens de la Révolution depuis qu'ils sont à soi-disant cessez-le-feu. Donc c'est véritablement de la dialectique, et c'est vide de sens. Le Hezbollah continuera de menacer Israël. Israël sera obligé de se défendre. Et à un moment donné ou à un autre, il faudra quand même faire le choix entre la politique, la Maison Blanche et la sécurité des citoyens du pays, qui est déjà, si vous demandez aux citoyens du nord d'Israël aujourd'hui, ils se sentent abandonnés, ils se sentent laissés pour compte de tout ce qui se passe en ce moment.
Ma dernière question justement, Raphaël, est-ce que ça va véritablement être un choix d'Israël quand on sait que si la menace de Donald Trump c'est de ne plus fournir peut-être des armes à Israël, ça met en danger aussi la sécurité des habitants d'Israël?
Oui, mais c'est un risque à prendre car le danger lui est immédiat. Est-ce que véritablement à moyen ou long terme les Américains arrêteront de fournir de l'armement aux Israéliens? Ça peut arriver. On voit se profiler à l'horizon des élections qui pourraient faire venir au pouvoir aux États-Unis un parti démocratique à moitié anti-israélien et dont beaucoup de sénateurs donc prônent une sorte d'embargo contre Israël. Et donc Israël doit maintenant commencer, mais dès maintenant, à calculer comment s'en sortir si jamais le soutien américain diminue. Ce dont je doute, hein, je pense que les Américains continueront malgré tout à soutenir Israël, mais Israël doit faire comme si effectivement il y avait une crise qui fait que on doit compter que sur nous-mêmes ou trouver peut-être de nouveaux alliés qui nous fourniront de l'armement. C'est possible, c'est jouable, et on doit le faire dès maintenant pour prévenir justement le coup et pour prévenir cette possibilité d'une arrivée à la Maison Blanche d'un gouvernement moins amical, dirons-nous, à l'égard d'Israël que celui de Donald Trump.
Alors, si effectivement on le prépare maintenant, ce sera peut-être bon dans 10 ans, mais pour tout de suite, ça va être compliqué quand même, Raphaël. Merci beaucoup d'avoir été...
Ok.
Allez-y. Ouais, dans tous les cas.
Non, je dis les industries militaires israéliennes travaillent maintenant d'arrache-pied pour augmenter leur taux de production. Et on met la pédale sur l'accélérateur, d'abord parce qu'on a beaucoup de commandes, mais aussi parce qu'on prévoit ce problème. Regardez, les Américains eux-mêmes, Donald Trump lui-même, a demandé aussi aux industries militaires d'accroître la production. C'est vrai que ça prendra du temps, d'où le fait qu'on doit s'y prendre dès maintenant.
C'est clair. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmi, ancien officier de renseignement militaire de Tsahal, d'avoir été avec nous ce matin, et également écrivain. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.